Salut, bienvenue. Aujourd'hui, je vais te parler de catabolisme et d'anabolisme. Alors, si tu es sportif, peut-être tu connais déjà ces termes. Il y a pas mal de personnes qui font de la muscu, qui font des séances HIIT, HIIT. Il y a d'autres personnes qui font, par exemple, de l'athlétisme. Donc, le catabolisme et l'anabolisme sont quand même des termes assez connus, hein. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que le catabolisme et qu'est-ce que l'anabolisme? Eh bien, en fait, lorsque tu fais du sport, par exemple, on va prendre un exemple assez simple, tu soulèves une charge. Par exemple, tu fais du curl biceps. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est-à-dire que, on va dire, ils prennent un haltère dans les mains et puis ils commencent à lever le poids. OK? Donc, ils vont travailler le biceps. Ce qui va se passer, c'est que sur ton biceps, tu vas soumettre un stress. Pourquoi tu vas soumettre un stress au niveau de ton muscle? Tout simplement parce que tu vas soulever une charge. Donc, il en résultera d'une contrainte mécanique. Comme tu as une contrainte mécanique, ce qui va se passer, c'est que tu vas commencer à déchirer, enfin, avoir plutôt des micro-déchirures concernant ton biceps. Pourquoi? Parce que tout simplement, il n'a pas l'habitude. Donc, comme tu vas le soumettre au stress, tu vas avoir des micro-déchirures, tu vas avoir des petits dégâts au niveau interne concernant le muscle que tu sollicites, eh bien, cette phase, on l'appelle la phase catabolique. Donc, c'est une phase un petit peu de destruction. OK? Une fois que tu as terminé, on va dire, ta séance sportive, ton exercice ou ton curl biceps, tu vas te mettre au repos. Tu vas commencer à t'alimenter et là, ce qui va se passer, c'est que tu vas rentrer dans une phase d'anabolisme. Donc, l'anabolisme, c'est assez simple, c'est-à-dire que ça va être la récupération du muscle, la reconstruction du muscle, c'est-à-dire que toutes les micro-déchirures que tu as eues pendant ta séance, eh bien, ton corps déjà va fabriquer des ressources, justement, des réparations en ce qui concerne tes fibres. Par l'intermédiaire de protéines qui vont faire en sorte que ton muscle va se réparer. Par également l'alimentation que tu vas lui apporter, notamment des protéines, eh bien ton muscle va se solidifier et par la suite, il va notamment s'adapter à la prochaine séance pour devenir plus résistant. C'est comme ça en fait qu'au fur et à mesure des semaines et des mois qui passent, tu vas commencer à avoir tes muscles qui grossissent. Et donc cette phase, on l'appelle la phase d'anabolisme. Après, il y a tout un système hormonal qui rentre en jeu avec la testostérone et ainsi de suite. Mais pour faire simple, je vais m'arrêter à peu près à ce niveau-là pour que tu puisses comprendre. Donc, si toi maintenant tu es dans une séance sportive, ton objectif c'est de progresser. Donc, c'est de te soumettre à un stress. Okay, c'est-à-dire de sortir de ta zone de confort. Car si, admettons, tu restes toujours sur ton canapé en train de regarder Netflix, on va dire toute la journée, ou tu fais un métier assez sédentaire, tu restes assis toute la journée sur un bureau, enfin devant un ordinateur, et puis tu bouges pas trop, on va dire que ton corps, tes muscles se seront atrophiés, c'est-à-dire que ils seront vraiment assez faibles puisque tu ne les sollicites pas. Et ce qui va se passer, c'est qu'avec l'âge, eh bien, tu risques d'avoir des petits soucis, tu risques d'avoir des tendinites, tu risques d'avoir des blessures, tu risques d'avoir de l'ostéoporose, tu risques d'avoir des fractures, des chutes, des choses comme ça. Pourquoi? Parce que tu sollicites pas assez ton corps. À l'inverse, maintenant, celui qui va s'entraîner régulièrement, donc lui, il va être régulièrement en phase d'anabolisme, c'est-à-dire que son corps va progresser dans tous les domaines, dans le domaine cardiovasculaire, au niveau de son système musculaire. Donc, il va commencer à avoir des fibres beaucoup plus costauds, des tendons plus costauds, des os plus solides. Et donc, cette personne-là va mieux vieillir pour la simple et bonne raison qu'elle sera toujours en meilleure forme, elle sera moins essoufflée, moins fatiguée. Elle aura, si elle s'entraîne de façon correcte, des muscles fonctionnels qui vont l'aider dans son quotidien, notamment à porter des charges, à faire peut-être un travail assez physique sur une longue période, sur de longues années. Et puis, cette personne-là arrivera à la retraite dans un état correct. Elle pourra encore profiter pendant de nombreuses années, tandis que quelqu'un qui n'a jamais rien fait de sa vie, qui est jamais sorti de sa zone de confort, qui a toujours fait le strict minimum, cette personne-là, à la retraite, elle risque d'avoir des sacrés soucis. Ok, c'est pour ça qu'il y a pas mal de personnes qui arrivent à la retraite, ils ont pas mal de problèmes de santé, puisque ben voilà, mauvaise alimentation, pas de sport, pas d'entraînement, rien. Donc forcément, ça mène pas de bons résultats. Alors maintenant, le catabolisme et l'anabolisme, ça ne concerne pas forcément le domaine sportif, ça peut concerner également ta propre vie. Alors pourquoi ta propre vie, ton quotidien? Tout simplement parce que si maintenant tu as des projets dans ta vie, tu restes, tu as des projets, on va dire, voilà. La phase catabolique, comment est-ce que tu peux l'exprimer? C'est-à-dire que tu vas sortir de ta zone de confort, tu vas te soumettre à un stress. Alors qu'est-ce que va être le stress dans la vie quotidienne? Ça veut dire le fait de prendre des risques. Le fait, par exemple, de faire des investissements, de la bourse, le fait d'investir peut-être ouvrir une assurance vie, le fait peut-être devenir entrepreneur, le fait de créer quelque chose, peut-être le fait d'investir dans l'immobilier et ainsi de suite. Ça, c'est le fait de prendre un risque. Donc, tu vas sortir de ta zone de confort, tu vas te soumettre à un stress. Donc, c'est ce qu'on peut appeler dans ta vie quotidienne, la phase catabolique. Donc, au lieu de rester assis sur le canapé, tu vas commencer à bouger, tu vas commencer à prendre des décisions et justement, tu vas commencer à passer à l'action. Voilà, phase catabolique. Mais la phase catabolique, ça peut également le fait que tu as échoué dans quelque chose. Donc, tu as échoué, ça s'est mal passé, tu as eu des dégâts. N'oublie pas que dans le domaine sportif, c'est une dégradation, ok? C'est une petite destruction concernant ton système musculaire. Et là, lorsque tu as un échec, c'est aussi une forme un peu de dégradation, okay, de ta situation actuelle. Mais l'avantage, c'est que si tu te prends en main de suite et si tu tires parti de tes échecs, on va dire que tu vas rentrer dans une phase d'anabolisme. L'anabolisme, c'est-à-dire que, admettons, tu as un échec, tu te relèves et tu repars à l'abordage, tu repars de nouveau en essayant de trouver de nouvelles solutions, en essayant de tirer parti de tes échecs. Donc tu vas devenir plus fort, plus costaud par la suite, tu feras plus les mêmes erreurs et tu vas commencer à évoluer. D'échec en échec, tu deviens de plus en plus fort. Et donc, c'est-à-dire que l'échec égale catabolisme et la façon de tirer leçon de tes échecs et d'être de plus en plus fort, tu vas entraîner et avoir une phase d'anabolisme. Alors attention, certaines personnes aussi, le problème c'est qu'elles sont régulièrement en phase catabolique, c'est-à-dire qu'elles se soumettent à des stress permanents, du stress chronique, c'est-à-dire qu'elles prennent des risques insensés, démesurés, elles ne tirent pas parti de leur échec, c'est-à-dire que, je sais pas, quelqu'un qui a échoué un examen, eh bien, elle va être découragée, elle va être démotivée, elle ne va plus jamais rien faire pour essayer d'évoluer, c'est-à-dire qu'au lieu de se former, d'apprendre de corriger ses points faibles. Dans certaines matières, par exemple, je ne sais pas moi, admettons un étudiant, il a loupé en physique ou des choses comme ça. Au lieu de travailler ses points faibles, peut-être en investissant, en prenant un prof des cours du soir ou peut-être en prenant un prof chez lui qui lui donne quelques cours par semaine, en plus, en lisant des livres, en suivant des conférences sur Internet, en suivant peut-être des cours gratuits sur le net et ainsi de suite, des formations. Eh bien, cette personne, elle va se laisser démotiver et puis elle va regarder du Netflix et ainsi de suite. Donc là, elle est vraiment en phase catabolique permanente, en phase de destruction permanente. Et ça, c'est vraiment pas l'objectif. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de phase anabolique derrière. Donc l'anabolisme, ça va être quelqu'un qui va faire en sorte justement de combler ses lacunes par les livres, par la lecture, par exemple, demander conseil à des personnes qui ont déjà eu ce genre d'échec, ok? Et voir ce qu'elles ont fait pour essayer de rectifier le tir. Par exemple, faire des stages de développement personnel, faire des formations, comme je te l'ai dit auparavant. Maintenant, tu sais, tu as pas mal même de formations maintenant par l'intermédiaire du net. Tu peux faire des MOOC, des choses comme ça. Tu peux avoir des cours universitaires gratuits sur le net, ce qui est quand même de nos jours pas négligeable, quand même assez intéressant. Voilà, donc plein de petites choses pour essayer de corriger la situation et de repasser par exemple l'examen que tu as loupé et de le réussir. Donc là, tu aurais été beaucoup plus fort qu'à la phase précédente. Tu as eu un stress, tu l'as loupé, tu t'es préparé, tu as corrigé tes lacunes, anabolisme, et tu as réussi. Et donc tu repars beaucoup plus fort. Donc la vie, parallèlement au sport, c'est souvent une phase, on est souvent dans les phases de catabolisme et des phases d'anabolisme. Et l'objectif dans ta vie, c'est de ne pas rester justement dans la phase où tu ne fais rien, tu ne prends jamais aucun risque, tu restes toujours chez toi, devant ta télé, tu fais ton petit boulot, boulot, métro, dodo, et ainsi de suite. C'est-à-dire que tu auras une vie assez fade, c'est-à-dire que tu seras en état d'atrophie permanent. C'est-à-dire qu'aucune évolution. Tu ne lis pas, pas de sport, pas de méditation, tu fais rien de tes journées, pas de liens sociaux. Ta famille, tu l'appelles pas plus que ça, tu te laisses aller. Et si tu es comme ça, tu risques d'avoir de sérieux problèmes parce que tu vas rentrer dans une phase de routine assez négative. Tu risques même d'avoir des problèmes de couple puisque si tu es le genre de personne qui va s'installer dans le canapé quand elle rentre du boulot le soir et puis boire deux, trois bières et puis laisser ta compagne, ta concubine faire tout le ménage, faire la cuisine, faire ci, faire ça. Avec le temps, tu risques d'avoir peut-être une rupture. Donc, fais attention, essaye toujours de te remettre en question. Essaye toujours de faire du catabolisme et de l'anabolisme par la suite, derrière, juste derrière le catabolisme, enchaîne sur une phase d'anabolisme. Tu t'es soumis à un stress, tu as essayé d'investir dans quelque chose. Voilà, peut-être tu vas avoir des résultats, ce qui va entraîner de l'anabolisme. Tu as fait ta séance sportive, tu n'étais pas très motivé, c'est pas grave, tu as détruit des fibres musculaires. Eh bien, derrière, alimente-toi de façon saine. Anabolisme. Tu as regardé, on va dire, du Netflix, des machins comme ça et ainsi de suite. Derrière, tu vas peut-être pouvoir lire un peu ou faire une promenade. Anabolisme, ok? Tout ce qui précède, non, disons, tout ce qui précède l'anabolisme est le catabolisme, ok? Donc, essaye d'alterner toujours entre ces deux niveaux et de toujours terminer par l'anabolisme. Voilà, donc je pense que ça peut être intéressant un petit peu de réfléchir un petit peu là-dessus. Peut-être que ça peut t'apporter également des situations intéressantes pour ton quotidien, mais évite à tout prix l'atrophie intellectuelle, l'atrophie sportive, l'atrophie physique. Si tu sors de l'atrophie régulièrement dans ton quotidien, en ayant un équilibre de vie assez, on va dire, sain, eh bien, tu risques de tout simplement d'avoir une vie assez, assez agréable. Voilà. Mais écoute, laisse-moi un petit retour si ça te parle un petit peu. Et puis, bah moi, en attendant, je te souhaite de passer une excellente journée. À très bientôt. Salut. Salut, j'espère que tu vas bien. Donc, on est jeudi. Donc, j'espère que ton début de semaine s'est bien passé. Si tu habites en France, tu peux constater que c'est la canicule. Il y a quand même des températures hyper hautes pour un mois de juin. C'est vrai que c'est pas facile, hein. C'est fatigant, pas mal de soleil. Moi, je suis quand même une personne qui aime bien bouger, faire des activités, aller me promener et ainsi de suite. Et là, je suis obligé un petit peu de me restreindre. Donc, je reste quand même plutôt enfermé chez moi pour essayer d'avoir un petit peu de frais quand même, parce que dehors, c'est vrai que c'est pas évident. En tout cas, j'espère que qu'aujourd'hui et puis demain, ta fin de semaine va bien se passer. Donc, dans cet épisode, je vais aborder le fait de se fixer des objectifs par l'intermédiaire de la méthode SMART. Alors, la méthode SMART, je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler ou pas. J'en avais déjà parlé dans un précédent podcast, il me semble. Donc, c'est une méthode pour se fixer des objectifs. Je te dirai en fin de podcast pourquoi je suis un petit peu mitigé par cette méthode. Mais elle peut être quand même très utile. Alors, SMART, c'est un acronyme composé de 5 lettres, SMART. Donc le S, la première lettre, signifie spécifique. Alors, prenons l'exemple. Maintenant, tu as envie de te fixer un objectif, par exemple, de perte de poids. Si maintenant ton objectif, c'est, voilà, j'ai envie de perdre du poids, ok. Mais c'est beaucoup trop vague. Ou alors, admettons, tu te dis, bon, j'ai peut-être envie d'augmenter mon revenu actuel qui ne me satisfait pas. Ok, donc je veux une augmentation. Ok, c'est cool, mais de combien veux-tu cette augmentation? Combien de kilos souhaites-tu perdre sur la balance? Ça, c'est du spécifique. Si tu n'es pas précis sur tes objectifs et qu'ils restent toujours vagues, tu ne vas pas aller bien loin. Et c'est ça qu'il y a beaucoup de personnes, par exemple, au niveau des bonnes résolutions, au niveau d'essayer de se changer un petit peu concernant leur santé, leur mode de vie, et ainsi de suite. Ils se disent, voilà, maintenant, à partir de demain, Je vais perdre du poids à partir de demain. Je mange sainement. À partir de demain, je vais gagner plus d'argent. Je vais trouver du travail, certes. Tout ça, c'est bien beau, mais c'est trop vague. Donc, pense toujours S comme spécifique. Essaye d'être bien précis, de bien définir ton objectif. Donc, ça, c'est important. Donc, si tu veux perdre du poids, ok, mais définis le nombre de kilos que tu souhaites perdre. Ensuite, le M, c'est mesurable. Par exemple, tu souhaites une augmentation de salaire, ok, pas de souci, mais il faut que ce soit mesurable. Donc, déjà, tu définis S comme spécifique, combien est-ce que tu veux gagner en plus? 100 euros, 200 euros, 300 euros, ok, peut-être même 10 000 euros, ok, on n'en sait rien. Donc, ça, c'est le spécifique. Tu veux perdre du poids, donc tu as défini ta perte de kilos, ok, c'est cool. Mesurable. Donc, il faut que tu aies un objectif, un système de mesure, ok, pour que tu évalues, on va dire, si tu es dans le bon chemin ou pas. Si maintenant tu veux perdre du poids, quel est ton système de mesure? Eh bien, ça va être le pèse-personne. Par exemple, une fois par semaine, tu vas pouvoir te peser pour voir si effectivement tu as perdu du poids ou pas, le poids souhaité. Si, admettons, tu veux perdre 500 grammes par semaine. Eh bien, toutes les semaines, tu te pèses et tu comptes sur le pèse-personne et là, tu vas constater si tu as atteint ton objectif ou pas. Ensuite, le A, c'est comme atteignable. Alors, atteignable, c'est-à-dire que quelles compétences il faut que tu aies pour réussir cet objectif. OK? Peut-être il faut que tu aies. Peut-être, il faudrait peut-être que tu lises des livres, peut-être il faut que tu suives une petite formation avant, peut-être qu'il faut que, par exemple, si c'est une perte de poids, peut-être renseigne-toi sur déjà des personnes qui ont perdu du poids et voir si c'est jouable ou pas pour toi. Admettons, si tu veux perdre 10 kilos en un mois, tu sais déjà que ce n'est pas jouable, ça va être hyper compliqué, d'accord? Donc, essaye de te renseigner déjà quels outils aussi il va te falloir pour réussir cet objectif. OK? Ça, c'est le fait que ce soit atteignable ou pas. Est-ce que tu as déjà. Tu veux te. Admettons, tu as envie de courir régulièrement. D'accord? Donc, tu veux courir 10 minutes par jour pendant une semaine. Est-ce que ça va être atteignable? Admettons, tu sais que tu n'as pas de tenue de sport, tu n'as pas de basket, tu ne vas pas courir en chaussures. Donc déjà, pour que ton objectif y soit atteignable, il faut que tu aies des chaussures de sport. D'accord? Tu vois un petit peu le principe? Donc ça, c'est super important. Donc le A comme atteignable. Ensuite, on arrive à la lettre R. Donc le R, c'est le fait que ce soit réaliste. Et ça, c'est super important aussi. Parce qu'il y a des personnes, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent se remettre au sport. Et ils se disent, ouais, moi je vais y aller tous les jours pendant 2-3 heures, je vais faire ma séance de sport, je suis motivé, j'ai de la volonté, et ainsi de suite. Le problème, c'est que si tu réagis comme ça, tu vas vite te rendre compte que ce n'est pas du tout réaliste, parce que déjà tu pars de zéro et tu veux réagir comme quelqu'un déjà de sportif confirmé. Ça ne va pas être possible si tu es débutant. Maintenant, quelqu'un qui fait des arts martiaux, il ne pourra pas réaliser certains gestes techniques parce que, il est débutant. Okay? Ou admettons maintenant, prenons un exemple hyper simple. On va dire, tu as peut-être la trentaine, ok, même la quarantaine ou même la cinquantaine, peu importe, et tu te dis, bon, bah voilà, maintenant mon objectif, c'est de devenir champion olympique de boxe. Alors que tu n'as jamais fait de boxe, tu t'es jamais inscrit, et vu ton âge, c'est quasiment impossible. Donc, là déjà, c'est irréaliste. Donc, ce n'est pas du tout réaliste. Donc, ton objectif sera voué à l'échec. Ok? Ce qu'il faut que tu fasses, à mon avis, c'est que lorsque tu définis un objectif, pour que le fait qu'il soit réaliste, c'est-à-dire que ça doit être ni trop peu, ni trop. Dans le sens où, si ton objectif est beaucoup trop facile, tu vas t'ennuyer, tu vas être un petit peu déçu. Si, admettons, tu veux perdre du poids et tu dis, voilà, moi, mon objectif, c'est de perdre 1 kg dans les 6 prochains mois, c'est pas, toi, c'est beaucoup trop peu. Ton objectif n'est pas assez motivant. Donc tu vas t'ennuyer, tu as toutes les chances de le louper. Si maintenant ton objectif c'est de perdre 20 kilos en 3 mois, ça va être très compliqué. Et je te conseille pas, c'est pas très réaliste. Même s'il y a des personnes effectivement qui arrivent à faire ça, c'est une exception. Et sur le long terme, tu risques de pas tenir. Donc c'est pas pas très réaliste, surtout si tu n'as jamais fait de régime, si tu n'as jamais fait de restrictions alimentaires, si tu n'as jamais revu ton alimentation en mangeant des produits sains, des produits bruts, ça va être très compliqué. Si tu ne fais pas de sport, tu es quelqu'un de sédentaire, ça va être compliqué. Donc, pense à ce que ton objectif soit réaliste. Ensuite, le T pour temporel. Il faut que ton objectif, il y ait une date, si tu veux, butoir, une date de fin, une deadline, c'est important. Parce que sinon, ton objectif, admettons, tu veux perdre 4 kilos. Si maintenant ces 4 kilos, tu veux les perdre, tu n'as pas de date butoir. Donc, quand est-ce que tu vas les perdre, ces 4 kilos? Dans les 3 prochains mois? Dans les 6 prochains mois? Dans les 5 prochaines années? Dans les 10 prochaines années? Tu vois, c'est beaucoup trop vague, à nouveau, puisque tu n'as pas de date butoir. Donc, si tu n'as pas de date butoir, parfois, ça va démotiver certaines personnes. Donc là, tu as vu les principes de la méthode SMART. Ça peut vraiment t'aider si tu ne sais pas comment définir un objectif, comment te lancer dans un but pour ta vie, dans ton quotidien. Eh bien, essaye et teste cette petite astuce. Ça peut vraiment t'aider. Donc, ça s'appelle la méthode SMART. Hein, donc, le S pour spécifique, le M pour mesurable, le A pour atteignable, le R pour réaliste et le T pour temporel, se fixer une date butoir. Et je reviens juste un petit peu sur la date butoir. Effectivement, quand admettons, tu veux peut-être perdre 3 kilos dans les 2 prochains mois, à telle et telle date, tel et tel jour, ça va justement te motiver à essayer de boucler, de finir ton objectif en temps et en heure. Voilà, ça c'est pour la méthode. Maintenant, je vais dire ce que j'en pense. Le problème avec cette méthode, et j'ai constaté qu'il y a pas mal de personnes qui l'utilisent, mais il y a très peu de super résultats. C'est-à-dire que je dirais que un objectif sur deux fait avec cette méthode est quasiment voué à l'échec. Alors, ça peut être un peu paradoxal dans le sens que je t'ai dit en début de podcast, ça peut t'aider pour les objectifs dans ta vie quotidienne. Oui, effectivement. Donc, vraiment, et teste, et peut-être ça va vraiment fonctionner pour toi. Mais cette méthode ne fonctionne pas pour tout le monde. L'inconvénient pour moi par rapport à cette stratégie, cette technique, c'est qu'elle va amener un stress. Elle va amener un stress parce que des fois, on a du mal à définir nos objectifs. On n'est pas assez bien conseillé, ou alors on va peut-être demander conseil à quelqu'un qui, admettons, tu veux reprendre le sport, donc tu vas peut-être aller voir quelqu'un de très sportif dans ta salle de musculation, dans ta salle de fitness, et donc il va te donner ses conseils d'entraînement, mais lui, à un tel niveau que toi, jamais de la vie, tu vas t'entraîner de cette façon-là. Donc tu vas essayer de t'entraîner à l'image de ce qu'on t'a dit, des conseils que tu as reçus, mais si tu as reçu des conseils d'un grand sportif. Le problème, c'est que toi, si tu vas faire le même entraînement, tu vas être fatigué, tu ne vas pas réussir à tenir le rythme, mais ça va te démotiver, donc tu vas lâcher. Pareil pour l'aspect temporel. Ok, une fois que tu as réussi, admettons, ton objectif de manger sainement, on va dire, tu as envie de réorganiser ton alimentation et tu veux manger sainement, des produits bruts, beaucoup de légumes, tu veux commencer à manger du bio et ainsi de suite. C'est très bien, mais une fois que tu arrives à ton objectif, une fois que l'échéance est finie, qu'est-ce qu'il se passe? Est-ce que tu vas revenir à tes anciennes habitudes? Et ça, c'est possible, hein. Il y a beaucoup de gens que lorsqu'ils ont atteint leur objectif, lâchent totalement les efforts qu'ils ont fournis pour arriver, pour tendre à cet objectif, et ils reviennent à leurs anciennes habitudes, c'est-à-dire leurs mauvaises habitudes, la malbouffe, McDonald's, et ainsi de suite. Et ce qui va se passer, c'est que derrière, ben finalement, cet objectif n'aura pas servi à grand-chose. Et pour d'autres personnes aussi, le fait de mettre du temporal, ça va créer du stress, créer de l'anxiété. Et lorsqu'on va constater qu'on va échouer par rapport à l'objectif que l'on a désiré au tout début, on va se sentir encore plus mal parce qu'on va se dire, ouais, j'ai pas été capable de perdre 5 kilos, je suis nul, je suis mauvais. On va avoir la confiance qui va commencer à diminuer parce qu'on va se sentir incapable, ok? Et ça a quand même des effets néfastes en fait, si tu veux, ok? Sur ta réussite future ou pas de ton objectif. Donc c'est pour ça que moi personnellement, je suis un petit peu dubitatif Je suis un petit peu sceptique par rapport à cette méthode parce que j'ai constaté que beaucoup de personnes échouent en utilisant cette méthode. Énormément de personnes échouent. Le stress, l'anxiété, la dépression, on a du mal à se fixer, à définir vraiment des objectifs réalistes. Ou peut des fois on va s'ennuyer parce qu'on va se définir des objectifs pas assez motivants. Donc tout ça va faire que la méthode SMART n'est pas forcément la meilleure méthode possible. Maintenant, le but des objectifs, vaut mieux que tu prennes des objectifs de vie plutôt que des petits objectifs un peu ridicules. Plutôt qu'admettons, ok, tu veux perdre 5 kilos, ok, tu te fixes cet objectif-là de perdre 5 kilos. Si tu arrives à perdre que 3 kilos, au lieu d'abandonner, au lieu d'être déçu et après revenir à tes anciennes habitudes, dis-toi plutôt, fixe-toi plutôt comme objectif d'avoir une alimentation saine, de manger des légumes. Et au lieu de te fixer ça sur, on va dire, 3 mois, fixe-toi plutôt ça sur 1 an. OK? Et tu vas découper ça en petites étapes. Parce que l'objectif ultime, ce n'est pas de le faire sur 1 an, c'est de le faire à vie. OK? C'est pour ça que le temporel, moi, je ne suis pas super fan. Ça peut aider par certains cas. Pour se booster un petit peu, sortir un peu de la procrastination, bouger, sortir du canapé, passer à l'action. Mais sur le long terme, il vaut mieux que tu t'en un objectif, que tu prennes des habitudes qui deviennent automatiques. Vraiment, c'est les habitudes qui vont changer et qui vont faire la différence. Que ça devienne une identité, un état d'esprit. C'est comme le fait de. Lorsqu'il, par exemple, tu rentres chez toi le soir, tu appuies sur l'interrupteur de ton mur pour allumer la lumière, c'est automatique, tu n'y penses même plus car tu le fais régulièrement tous les soirs. Et les bonnes habitudes, les bons objectifs de vie, c'est que au jour le jour, régulièrement dans la semaine, voire même peut-être tous les jours, ça devienne un automatisme. Et ton objectif, c'est de tenir ça toute ta vie. C'est ça qui dépasse pour moi avant tout cette méthode SMART, c'est vraiment les habitudes pour que tu crées un nouvel état d'esprit, une nouvelle identité et que ça te dure vraiment toute la vie. Après, il y a tout un système à mettre en place, un protocole, un process qui est quand même relativement différent par rapport à la méthode SMART, mais c'est quand même la méthode SMART, une méthode qui peut t'aider. Ok? Elle peut aider environ une personne sur deux. Donc, si toi, tu as encore un petit peu de mal à définir des objectifs, essaye peut-être cette méthode. Peut-être que cette méthode, elle va t'apporter du concret. Peut-être que cette méthode, elle va t'apporter du bien-être, qu'elle va t'apporter des résultats. OK? Mais si on cherche toujours le résultat, souvent, on va être déçu. OK? Si maintenant tu te fixes de dire, ouais, maintenant, moi, je veux gagner 10 000 euros par mois. Et si tu dis, moi, je veux gagner les 10 000 euros dans les 6 prochains mois. Alors certes, peut-être tu vas trouver des solutions pour augmenter ton revenu, c'est pas mal. Mais si tu n'arrives pas à gagner tes 10 000 euros par mois, tu vas être frustré, tu vas être déçu. Et là, tu vas peut-être tout abandonner. C'est ça le piège en fait de cette méthode. C'est ça vraiment où il y a pas mal de personnes qui sont déçues. Parce que finalement, il y a très peu de personnes qui arrivent vraiment à accomplir, à tenir leurs objectifs et leurs engagements. Voilà, donc. Ce n'est pas une méthode à jeter à la poubelle, c'est une méthode à essayer. Peut-être que tu vas en tirer bénéfice. Si c'est le cas, eh bien, n'hésite pas à me laisser un petit commentaire sur les podcasts, sur la plateforme à laquelle tu m'écoutes. Et puis, voilà, dis-moi un petit peu tes retours, et puis on peut toujours en discuter. Voilà, donc j'ai fini pour cet épisode. J'espère que ben, ça t'a plu. J'espère que tu vas passer à l'action, car n'oublie pas que ce podcast, ça ne sert à rien d'écouter si tu ne passes pas à l'action. Ok? Au moins, je ne dis pas que tous les outils que je te donne, il faut les appliquer tous à la lettre, mais si certains épisodes peuvent t'apporter du bonus, eh bien, mets-les en pratique pour justement que ça t'apporte du concret dans ton quotidien. C'est l'objectif du podcast, hein. Voilà, bien écoute, je ne te retiens pas plus longtemps. Je te souhaite un petit peu d'air frais, hein, par cette chaleur et je te donne rendez-vous ben, très bientôt. Et n'oublie pas de rester zen. Salut!